Valentin Ahuy, Actualité, le journal des donateurs et amis de l'association Valentin Ahuy, revue trimestrielle, décembre 2020, numéro 140. Photo de couverture, une jeune femme lit du braille sur une plage tactile avec l'assistance d'une formatrice. Sommaire. L'édito du président. Écoutez. Clémence, Arnaud et Amandine, pratiquant du longe-côte. Se retrouver. Nomination de Sylvain Nivard. Comprendre. Grand angle sur l'emploi des personnes handicapées. Découvrir. L'Institut médico-professionnel de Chilly-Mazarin. Agir ensemble. Don en ligne, c'est le moment d'être généreux. Qui fait votre Valentin Ahuy Actualité? Le Valentin Ahuy Actualité est une revue trimestrielle éditée par l'association Valentin Ahuy, 5 rue du Roc, Paris 7e. Téléphone 01 44 49 27 27. VH Actualité au pluriel @avh.asso.fr. Téléchargeable et disponible en version audio sur www.avh.asso.fr. Directeur de la publication, Sylvain Nivard. Rédactrice en chef, Émilie Lèbre. Comité de rédaction, Marie-Bernadette Alexandre, Carole Bailly, Luc Bacot, Bénédicte Gassic, Géraldine Joubert, Claudine Legrand, Karine Roch. Crédit photo, AVH, Istock. Couverture, AVH, réalisation, opening, 92-817 Puto Cedex, imprimeur, AGFIM, Anières-sur-Seine, commission paritaire numéro 0123, H88-398, ISSN, 1163-1317, dépôt légal, décembre 2020. Ce numéro a été imprimé à 55 000 exemplaires. Il est accompagné d'une lettre, d'un bon de générosité et d'une enveloppe retour pour une partie des adressés. En couverture, la photo d'une jeune femme qui utilise une plage tactile braille avec l'assistance d'une formatrice dans le cadre d'un cours d'informatique adapté. L'édito du président. Chers fidèles lecteurs, l'année 2020 s'achève et nous laisse tous très préoccupés par la crise sanitaire sans précédent qui sévit depuis presque un an partout dans le monde. Les impacts de cette crise sont nombreux. Notre association s'est mobilisée pour autant que possible protéger nos bénéficiaires. Je remercie les salariés et bénévoles qui ont réussi tout au long du confinement à maintenir un lien avec nos bénéficiaires isolés ou fragiles. Parmi les répercussions de la crise sur les organisations, il y a bien sûr l'emploi, thème de notre dossier. L'emploi des personnes handicapées est plus que jamais à soutenir et à préserver, comme aussi le développement de formations adaptées et des outils numériques accessibles. Vous découvrirez dans notre reportage la rentrée 2020 de jeunes déficients visuels que l'on accompagne à l'Institut médico-professionnel de Chilly-Mazarin de l'association Valentin Ahuy. Ils y reçoivent une formation professionnelle et se préparent à leur future vie d'adulte. En cette période d'incertitude, l'association a plus que jamais besoin de votre générosité pour pérenniser ses activités auprès des personnes déficientes visuelles. Soutenez-nous en nous renouvelant votre fidélité. Aidez-nous aussi à mieux faire connaître notre association en parlant de nos missions et de nos actions autour de vous. Vous pouvez écouter et faire circuler notre premier podcast, Dans ses yeux, pour que le regard change sur le handicap visuel à travers des témoignages drôles, émouvants, inspirants. Nous vous souhaitons chaleureusement, ainsi qu'à vos proches, de très bonnes fêtes de fin d'année et nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine. Sylvain Nivard, Président. Rubrique Écoutez. Témoignage de Clémence. Le longe-côte, marche sportive dans l'eau le long de la côte, est un sport agréable. Cela me permet de prendre un peu plus confiance en moi à chaque séance. J'ai bien aimé le championnat de Bretagne car c'était la première fois que je faisais de la compétition et j'ai adoré. Je suis allé jusqu'au bout, malgré la mer déchaînée, grâce à Amandine, ma guide. Arnaud. Déjà pratiquant du torball, tandem, showdown au sein d'Andisport, j'ai découvert le longe-côte grâce à Amandine. Ayant vécu en bord de mer, j'étais déjà à l'aise dans les sports aquatiques. Côtoyer des personnes valides au sein du centre nautique de Port-Salle est pour moi positif. Ce sport allie mes deux passions, le sport et la mer. Amandine. Très jeune, j'ai été confrontée au handicap de la déficience visuelle, ma meilleure amie en étant atteinte. Lors de mon service civique au comité départemental handisport du Finistère, j'ai animé les séances proposées aux personnes déficientes visuelles. Fervente pratiquante du longe-côte, j'ai voulu partager ma passion et je me suis lancé avec les membres du comité de Brest avec enthousiasme pour le faire découvrir au plus grand nombre. C'est une franche réussite pour gagner en autonomie et confiance. Rubrique « Se retrouver ». Nomination de Sylvain Nivard, nouveau président et premier président aveugle de l'association Valentin Ahuy. Le 10 septembre 2020, le conseil d'administration de l'association Valentin Ahuy a élu Sylvain Nivard, 59 ans, à la présidence de l'institution. Il succède à Gabriel de Nomasi. Jusqu'ici, le tandem de tête de l'association était composé d'un secrétaire général aveugle et d'un président voyant. C'est la première fois dans l'histoire de l'association qu'une personne aveugle occupe la fonction de président. C'est un symbole fort. À l'heure où notre association choisit de grandes orientations au profit des personnes déficientes visuelles, s'adaptant aux changements de notre société et aux nouvelles technologies. Sylvain Nivard se définit volontiers comme un chef d'orchestre désireux de mettre en musique l'expérience des femmes et des hommes qui l'entourent. Malvoyant à la naissance, en 1961, Sylvain grandit à Paris et est l'aîné de 6 enfants. Scolarisé à l'école bilingue, il y fera tout son cursus, de la petite section à la terminale, dans un environnement amical, non seulement très stable, mais aussi indifférent à sa différence. Progressivement, à partir de la classe de terminale, sa vue se dégradant, Sylvain bascule dans le monde, entre guillemets, « empêché de lire ». Il se rapproche alors du GIA, groupement des intellectuels aveugles ou amblyopes, qui l'aide à changer son mode d'apprentissage en adaptant les supports sur des cassettes audio. Après un bac scientifique obtenu avec mention en 1978, il intègre une prépa Maths-sup puis Maths-spé à l'école Sainte-Geneviève de Versailles. Il est animé par la volonté de partager la même vie que les autres, ne pas se sentir différent, et porté par les valeurs qu'il transmet, la persévérance, l'écoute et l'envie d'avancer, de faire avancer. À l'issue du concours en 1980, Sylvain intègre une école d'ingénieurs, ENSI, filière électronique. En parallèle, il suit en cours du soir un cursus marketing à l'Institut d'administration des entreprises de Caen. Puis tout s'enchaîne, comme au rythme de la partition. Sylvain entre chez IBM pour 33 ans en tant qu'ingénieur. C'est à ce moment-là qu'avec sa déficience visuelle toujours évolutive, Sylvain doit franchir un nouveau cap, entre guillemets, empêché de circuler en toute autonomie. L'intégration dans les équipes se passe bien, de même que les relations commerciales avec les clients. La détermination reste le moteur de Sylvain. C'est cependant le début des déplacements avec une canne blanche qui, à vrai dire, au début ne servait pas à grand-chose. Soit la canne restait le plus souvent cachée, pliée dans son sac, soit elle était sortie, mais comme Sylvain n'avait pas pris de cours de locomotion... D'un poste d'ingénieur commercial, Sylvain progresse vers des fonctions de manager commercial. On lui confie notamment à plusieurs reprises le pilotage de start-up internes pour permettre à IBM de conquérir de nouveaux segments des marchés français et du Benelux. Sylvain achève sa carrière chez IBM comme responsable commercial du secteur santé, un des axes de forte croissance dans la stratégie d'IBM à l'époque. Il devient l'interlocuteur des responsables au ministère de la Santé, dans les ARS, agences régionales de santé, ou encore dans les hôpitaux universitaires. En parallèle de sa vie professionnelle, Sylvain s'engage dans la cité et accepte des responsabilités associatives. Il devient en 2001 conseiller municipal de Méry-sur-Cher, puis est élu à 2 reprises maire, 2008 et 2020. Depuis 1983, administrateur du GIA, il préside à partir de 2003 la commission culture de la CFPSA, Confédération française pour la promotion sociale des aveugles et amblyopes. Grâce à cet engagement, l'audiodescription a été lancée à la télévision et dans les cinémas de France. De même, sa détermination a permis la mise en place du dispositif innovant d'exception handicap aux droits d'auteur qui a favorisé la multiplication en France de l'édition d'ouvrages adaptés en braille et en sonore. Mais d'où lui vient cette énergie? Peut-être de ses lieux de ressourcement, le dépaysement pendant ses nombreux voyages autour du monde, le plaisir au milieu de sa famille ou de ses amis, la fierté après la ligne d'arrivée de ses marathons, le défi sur les pistes de ski qu'il dévale chaque année, la détente au piano ou dans sa chorale. Quand on lui demande quel est son secret pour tout entreprendre avec une telle conviction, Sylvain répond « Me prouver que je peux agir avec et pour les autres ». 100% de réussite pour les stagiaires du CFRP. Les certifications professionnelles ont été passées en juillet 2020 après quelques semaines de reprise dans les locaux de l'association. 100% des élèves ont obtenu la certification employé administratif et d'accueil. Les mêmes niveaux de réussite ont été atteints pour la certification CQP mécanicien cycle et technicien en assistance informatique dont c'est la première promotion. Évalué en contrôle continu, 100% des élèves ont obtenu le diplôme de masseur kinésithérapeute. Ces diplômes, obtenus après une année de formation particulièrement perturbée par les grèves et la crise sanitaire, ont une valeur d'autant plus importante. L'assiduité, l'autonomie et la persévérance dans le travail à distance ont permis ces beaux résultats, ainsi que l'investissement et le soutien de tous les services et partenaires, formation, informatique, insertion, médico-social, transcription, documentation, administration, logistique et foyer. Bravo et merci à tous. Le jeu Uno Braille, désormais disponible dans les boutiques Valentin Ahuy. L'entreprise Mattel, en partenariat avec l'association Valentin Ahuy, a lancé cet automne en France la version Braille de Uno, le jeu de cartes numéro 1 mondial. Doté d'inscriptions en Braille au coin de chaque carte pour indiquer sa couleur, son numéro ou l'action à réaliser, cette nouvelle édition va permettre aux personnes aveugles ou malvoyantes d'accéder à ce jeu universel, désormais adapté à leur handicap. Les jeux adaptés sont essentiels à la vie de chacun, tant pour se procurer un moment de plaisir détente que pour créer des interactions entre les joueurs ou encore renforcer les liens sociaux et familiaux. En ligne sur http://magasin.avh.asso.fr au prix de 18 euros. Une bonne idée cadeau pour les fêtes de fin d'année. Dans ses yeux, un podcast pour sensibiliser au handicap visuel. À l'occasion de la Journée mondiale de la vue, le 8 octobre, l'association Valentin Ahuy a lancé son premier podcast « Dans ses yeux », une série d'épisodes audio qui donne la parole aux personnes déficientes visuelles. « Dans ses yeux » a pour ambition de permettre aux personnes voyantes de se mettre à la place d'une personne déficiente visuelle et de comprendre la façon dont elle perçoit le monde. Il veut aussi montrer qu'au-delà du handicap, les personnes déficientes visuelles sont des artistes, des bénévoles, des salariés, des étudiants, des aventuriers, des parents, des passionnés, des sportifs. Drôle, émouvant ou inspirant, ces témoignages de quelques minutes permettent de mettre un visage sur ceux qui vivent la déficience visuelle, de casser certaines idées reçues et de mieux comprendre ce handicap souvent méconnu parce que pas toujours visible. Rendez-vous chaque mois pour découvrir un nouvel épisode dans ses yeux. Écoute en ligne et téléchargement gratuit sur www.avh.asso.fr/podcast. Art accessible. L'Égypte au bout des doigts. Engagée dans l'accès à la culture et à l'art, l'association Valentin Ahuy a collaboré avec le musée Granet d'Aix-en-Provence pour permettre aux personnes déficientes visuelles de découvrir les œuvres d'une exposition consacrée à l'Égypte. Ainsi, le musée expose la reproduction en relief d'une stèle dont une partie a été agrandie. C'est Rémi Closset, administrateur de l'association, qui a modélisé numériquement cette reproduction. Musée Granet d'Aix-en-Provence, visite accessible aux personnes déficientes visuelles dans le cadre de l'exposition « Pharaon, Osiris et la momie » jusqu'au 14 février 2021. Contact 04 42 52 88 32. http://www.museegranet-aix-en-provence.fr/nc/accueil.html. Rubrique « Comprendre ». Grand angle sur l'emploi des personnes handicapées. Se former pour développer des compétences, accéder à l'emploi, se maintenir dans l'emploi ou encore se reconvertir. Une évidence, une ambition, un challenge pour certains. Un désarroi, une peur, une difficulté majeure pour certaines personnes qui vivent avec un handicap. Le 8 juin 2020, Jacques Toubon, défenseur des droits, DDD, a publié son 6e rapport annuel d'activité et pour la 3e année consécutive, le handicap reste en 2019 le principal motif de discrimination, 22,7%, loin devant l'origine, 14,5%, et l'état de santé, 10,3%. Comment favoriser l'emploi des personnes en situation de handicap ? Les politiques publiques mises en place depuis des décennies ont-elles fait leurs preuves ? quelles avancées peut-on constater alors que désormais la crise sanitaire liée à la Covid-19 sévit dans le monde, que de nombreuses entreprises n'ont guère de visibilité sur les mois à venir, que les offres d'emploi sont rares et qu'une crise sociale est à craindre. Favoriser l'emploi des personnes en situation de handicap est plus que jamais un défi d'importance. Les chiffres, tout handicap confondu. En France, un travailleur handicapé sur trois dispose d'un emploi contre 2 personnes sur 3 pour la population dans son ensemble. Source IGAS, Handicap et Emploi, 2020. En 2019, le taux de chômage des personnes en situation de handicap était 2 fois plus élevé que la moyenne nationale. Plusieurs facteurs, comme l'adaptation d'un poste de travail, l'accessibilité des outils numériques, etc., sont de nature à renforcer les difficultés d'accès ou de maintien en emploi des personnes en situation de handicap. Concernant les personnes déficientes visuelles, il n'y a pas de chiffres, mais les professionnels pensent que le taux de chômage des personnes déficientes visuelles est, quant à lui, plus élevé. Au second semestre 2019, le chômage de la population globale était alors au plus bas depuis 10 ans avec 8,5% de demandeurs d'emploi. Le taux de chômage des personnes en situation de handicap, qui restait stable à 18% depuis plusieurs années, amorçait au premier semestre 2019 une très légère baisse de 1,1% par rapport à 2018, moins 0,7% pour le tout public. Toutefois, la part des femmes en situation de handicap recherchant un travail progressait de 3 points pour atteindre 50% contre 48% pour l'ensemble des publics. Ce sont aujourd'hui plus de 507 000 personnes en situation de handicap qui sont privées d'emploi. Source AGEFIP, AGEFIPH. Les demandeurs d'emploi en situation de handicap étaient plus âgés que la moyenne. 50% ont 50 ans et plus, 26% pour l'ensemble de la population. Ils possédaient un niveau de formation plus bas. 35% ont un niveau bac ou plus, contre 52% pour le tout public. 59% des demandeurs d'emploi en situation de handicap étaient au chômage depuis plus d'un an. Ces chiffres, issus d'une enquête menée par l'AGEFIP, relèvent malheureusement un constat sans appel. Une personne handicapée rencontre de forts obstacles pour accéder à une formation, mais aussi, par voie de conséquence, à l'emploi. Le 18 mars dernier, au lendemain des mesures de confinement, l'Organisation internationale du travail, OIT, a estimé que la pandémie de la Covid-19 pourrait entraîner une hausse du chômage dans le monde, touchant près de 25 millions de salariés. Il y a donc de quoi s'inquiéter, car déjà peu insérés dans l'emploi en temps normal, les personnes en situation de handicap risquent donc de rencontrer de plus lourdes difficultés dans leur recherche ou dans leur maintien dans l'emploi. Ce que dit la loi. C'est la loi du 10 juillet 1987 qui a mis en place l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, OETH. Toutes les entreprises de 20 salariés ou plus, qu'elles soient publiques ou privées, ont obligation d'employer, à temps plein ou à temps partiel, des travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi dans la proportion de 6% de l'effectif total de salariés. Article L5212-1-5 du Code du travail. Si le taux d'emploi n'est pas atteint, l'entreprise doit alors verser une contribution financière à un fonds dédié pour le développement de l'insertion professionnelle chargé de la collecter. AGEFIP, AGEFIPH pour les entreprises du secteur privé, FIPHFP pour les employeurs du secteur public. En fonction de la situation de l'entreprise, sa cotisation peut être normale ou dite majorée. D'autres lois ont vu le jour, comme notamment celle du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, qui en revoit certaines dispositions tout en renforçant les mécanismes d'incitation à l'embauche, en insistant sur le principe de non-discrimination pour garantir l'égalité de traitement pour tous. Les employeurs publics et privés doivent prendre des mesures appropriées pour garantir une égalité de traitement à toutes les étapes du parcours professionnel. Accès à l'emploi et à la formation, évolution ou maintien dans l'emploi. Et donc, permettre aux travailleurs handicapés d'accéder à un emploi correspondant à leurs qualifications et ou de le conserver, ainsi que de pouvoir effectuer des formations adaptées à leurs besoins. Il y a aussi la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, qui réforme en profondeur l'obligation d'emploi, OETH, notamment en donnant une inflexion majeure à l'inclusion en milieu ordinaire. Cette réforme a pour ambition d'améliorer l'emploi dans les entreprises, le taux actuel étant de 3,4% pour un objectif légal de 6%. en visant à la fois à simplifier les démarches des employeurs, mais aussi à assurer aux citoyens en situation de handicap de trouver un emploi en fonction de leur projet personnel. Par ailleurs, cette loi valorise désormais toutes les formes d'emploi des travailleurs handicapés, stages, périodes de mise en situation professionnelle, intérim, qui pourront être comptabilisés dans le taux d'emploi direct des entreprises. À compter du 1er janvier 2020, de nouvelles mesures sont fixées, comme notamment, premièrement, l'incitation à l'emploi direct. En effet, le taux d'emploi à respecter ne prendra désormais en compte que la part des travailleurs en situation de handicap effectivement présents dans l'entreprise, intérimaires et personnes mises à disposition compris. Deuxièmement, l'incitation à la sous-traitance. Les contrats passés avec les établissements et services d'aide par le travail, ESAT, les entreprises adaptées, EA, ou les travailleurs indépendants en situation de handicap peuvent faire l'objet d'une mesure de déduction de la contribution due à l'AGFIP ou au FIP-HFP, mais ne sont plus comptabilisés dans le taux d'emploi. La reconnaissance du handicap simplifié, la RQTH, est attribuée à vie et délivrée automatiquement sans délai pour éviter les ruptures de droit. Des acteurs mobilisés. Il y a près de 2 ans, les chantiers majeurs initiés par le gouvernement sur les politiques d'accès et d'accompagnement à l'emploi des personnes en situation de handicap étaient lancés en France. Le lancement de la plateforme Mon Parcours Handicap en est un des aboutissements et répond à l'une des 22 mesures du Comité interministériel du handicap, CIH, du 3 décembre 2019 et à l'une des propositions centrales du rapport d'Adrien Taquet et Jean-François Serre visant à mettre en place un portail unique d'information et de services sur le handicap orienté parcours usager. Cette plateforme d'information, d'orientation et de services pour les personnes en situation de handicap et leurs proches aidants a été conçue pour le compte de l'État et mise en ligne en mai 2020. Sa vocation est de permettre aux personnes en situation de handicap de s'informer et d'effectuer leurs démarches en ligne grâce à un accès direct à des informations généralistes, officielles, fiables, facilement compréhensibles et actualisées, des ressources nationales et de proximité, géolocalisées, annuaires, sites spécialisés, événements, des services personnalisés et sécurisés. Ce portail unique est accessible aux personnes déficientes visuelles. Il est important de le mentionner, car l'accessibilité des outils numériques est un point incontournable pour favoriser l'inclusion, et ce, dès les premières étapes de formation, à l'école et dans l'enseignement supérieur. Des structures comme l'AGFIP, le réseau Cap Emploi, les missions handicap des entreprises, les entreprises adaptées, EA, les établissements et services d'aide par le travail, ESAT, ou encore des associations comme le GIA, APIDV, Groupement des intellectuels aveugles ou amblyopes, interviennent chaque jour auprès des personnes en situation de handicap pour les accompagner dans la recherche ou le maintien dans l'emploi ou les aider à sécuriser leur parcours professionnel en facilitant notamment son accès à la formation et au bilan de compétences. Anne Chouzenou, coordinatrice du Club Emploi, nous l'explique. La déficience visuelle est un handicap mal connu, notamment des employeurs. Avec le Club Emploi du GIA, qui existe depuis 2008, un binôme de bénévoles ayant une bonne maturité professionnelle, composé d'un déficient visuel et d'un voyant, coach, selon une méthodologie spécifique, l'accompagner tout au long de son cheminement. Hervé H., bénévole accompagnateur au Club Emploi, ajoute « Nous accompagnons toute personne déficiente visuelle en âge de travailler, quel que soit son profil. Nous mettons en place un programme de travail, rassurons, apportons des conseils et des orientations. Mais l'accompagné reste acteur de sa recherche. Il y a une envie de départ, nous la stimulons. » L'objectif de ce réseau, qui regroupe plus d'une centaine d'organismes d'insertion et de placement, est d'accueillir, informer, préparer, accompagner et de trouver un travail pour les personnes reconnues handicapées et favoriser leur insertion durable en milieu ordinaire. Pour plus d'inclusion. L'intégration de l'accessibilité numérique dans la conception des schémas directeurs des systèmes d'information et le développement des solutions numériques est essentiel. Il en va de même de l'optimisation de l'accès aux outils d'entreprise, notamment numériques, aux personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, pas ou peu de données existent sur le sujet du handicap visuel, ainsi que sur l'apport des nouvelles technologies quant à l'employabilité des personnes déficientes visuelles. C'est dans cet esprit que la Fondation Valentin Huy a lancé Access Lab, dont l'objectif est de soutenir les innovations numériques permettant de faire progresser l'employabilité des personnes déficientes visuelles et de produire et partager des données sur le handicap visuel, l'emploi et le numérique. Les résultats de cette grande enquête intitulée « Handicap visuel, usage et besoins en numérique » vous seront communiqués dans un prochain numéro. L'engagement de l'association Valentin Huy en faveur des personnes déficientes visuelles. L'association Valentin Huy possède 16 établissements répartis sur 8 sites dont les missions portent sur deux domaines, insertion et formation professionnelle d'une part, accompagnement social d'autre part, le tout au service des personnes aveugles ou malvoyantes. En 2019, les établissements employaient 280 salariés, dont 18 salariés handicapés en milieu ordinaire et 56 en milieu adapté, et bénéficiaient du concours d'une quinzaine de bénévoles. 142 travailleurs handicapés sont accompagnés en milieu protégé au sein des ESAT Odette Witkowska et Escolor. Nos établissements permettent à des personnes avec déficience visuelle et troubles associés d'exercer une activité professionnelle dans des conditions de travail aménagées. Certains sont hébergés sur place, d'autres sont externes et viennent travailler par leurs propres moyens. L'activité des différents ateliers est répartie entre l'impression de documents en braille, la reprographie et le routage de documents, le conditionnement, le petit montage électrique et mécanique, les espaces verts. L'engagement de Microsoft. Par Philippe Trottin, directeur inclusion et accessibilité numérique chez Microsoft. Microsoft est très engagé sur la diversité et l'inclusion, plus spécifiquement sur l'emploi des personnes en situation de handicap. En effet, attirer et recruter ces nouveaux talents permet à l'entreprise d'améliorer ses performances et d'innover dans ses solutions au service de tous. Depuis 2019, l'entreprise s'est d'ailleurs engagée par convention avec la Direct pour accélérer cette intégration. Pour offrir un environnement inclusif, Microsoft s'est transformé et a rendu accessible l'intégralité de ses applications et sites web depuis déjà plusieurs années. Cela a donné lieu à la création d'un outil disponible gratuitement en open source et facilitant les mises en accessibilité, notamment des sites web. http://accessibilityinsights.io. C'est d'ailleurs toute la philosophie du partenariat entre Microsoft et l'association Valentin Huy pour offrir aux personnes déficientes visuelles davantage d'autonomie en concevant des applications gratuites sur iPhone, comme l'application Seeing All, lecture de texte, identification de personnes, et tout dernièrement l'application Soundscape, navigation en son spatial 3D. Ces deux applications innovantes n'auraient sans doute jamais vu le jour sans la présence dans l'entreprise d'un développeur non-voyant et d'un chercheur déficient visuel. Rubrique Découvrir. Photo d'illustration. Deux hommes procèdent au repiquage tout en douceur de jeunes pousses de fleurs. À l'IMPRO de Chilly-Mazarin, les élèves regardent vers l'avenir. Chaque année, de jeunes déficients visuels avec troubles associés viennent de toute la France à l'Institut médico-professionnel, IMPRO, de Chilly-Mazarin, de l'association Valentin Huy, pour recevoir une formation professionnelle et se préparer à leur future vie d'adulte. Dans la lumière douce de ce matin de septembre, les élèves, tous masqués, patientent par petits groupes en attendant le début des cours. Abdoulaye, 19 ans, improvise quelques pas de danse sous les rires et les encouragements de ses camarades. Après le temps du confinement, puis des vacances d'été, 38 élèves entre 14 et 21 ans reprennent enfin le chemin des classes à l'IMPRO de Chilly-Mazarin. Une rentrée singulière dans un établissement tout aussi singulier. Au détour d'un couloir, quelques retardataires cherchent encore leur classe. Il faut dire que les emplois du temps sont bien chargés. En plus des traditionnels cours de français, d'anglais et de mathématiques, les élèves enchaînent les ateliers de 45 minutes pour apprendre les bases de l'informatique adaptée, le braille, l'horticulture, la cuisine, la sous-traitance, la locomotion avec une canne blanche, la menuiserie ou encore le repassage. Autant d'outils précieux qui leur serviront plus tard pour s'insérer sur le marché du travail adapté et mener la vie la plus autonome et épanouie possible. Accepter son handicap. Lors du cours d'informatique adaptée, Isia soupire devant son écran où s'affiche l'histoire d'Ali Baba et les 40 voleurs qu'elle écoute, équipée de son casque audio, tandis que ses doigts hésitent au-dessus de sa plage braille. La jeune fille de 18 ans ne cache pas son manque d'appétence pour le braille. Un apprentissage pourtant obligatoire pour tous les élèves, mais souvent mal acceptée au début car associée au handicap visuel. Nathalie Correia, professeure spécialisée en informatique adaptée et en braille, nous l'explique. C'est un cheminement personnel que font les jeunes pour accepter la malvoyance et nous sommes là pour les y accompagner. Instructrice de locomotion depuis 34 ans, Pascale Mercier partage aussi cette vision. La locomotion fait partie du programme de cours, mais on ne prend les élèves que s'ils sont demandeurs, sinon on va droit dans le mur. Le travail avec les parents aussi est vraiment crucial parce que s'ils n'acceptent pas le handicap de leur enfant, alors les élèves ne se mettent pas en condition de réussite. Pour accepter son handicap et apprendre à vivre avec, chaque élève suit son propre rythme, encouragé et aidé par l'équipe encadrante. Pascale Mercier précise « Il n'y a pas de quota horaire. Si on doit mettre un an pour qu'un élève traverse deux rues simples, on mettra un an. » Adapter son enseignement. Sous la grande serre, aux aires de jardins exotiques, Brandon et Abdoulaye se concentrent pour repiquer une à une les pousses de fleurs dans les 175 petites alvéoles de terre. Cela demande énormément de dextérité et de sensibilité pour ne pas écraser la pousse lorsqu'on est malvoyant. Les gens ne réalisent pas à quel point c'est fatigant pour eux, remarque Jean-Christophe Bossuet, professeur d'horticulture. J'ai moi-même moins 18 à un œil et parfois je ferme l'autre pour me mettre à leur place et adapter mon cours en fonction. S'adapter, trouver des solutions alternatives font partie du quotidien des formateurs accompagnés dans ce travail par une ergothérapeute et une orthoptiste. Au cours de cuisine, l'atelier épluchage ressemble à un tableau de Mondrian, un savant mélange de planches à découper aux couleurs vives. Hélène Mérienne, formatrice à l'atelier cuisine, explique. On essaie de travailler sur les contrastes de couleurs pour que les élèves distinguent mieux les formes. Pour éplucher les concombres verts, par exemple, on utilise une planche rouge. On adapte, mais on fait aussi attention à ne pas trop leur faciliter la tâche, car demain, ils devront peut-être se débrouiller sans tout ça. Se préparer à l'avenir. Car c'est bien de demain dont il est question à chaque heure de la journée. À l'âge de l'adolescence, où l'on se construit au contact des autres, loin du cocon familial, ces jeunes doivent aussi construire un projet professionnel en jonglant entre leurs envies, leurs capacités et leur état de santé. Camille a découvert les joies de la cuisine en arrivant à l'IMPRO et s'imagine déjà cuisinière. Yann, passionné de piano, rêve de devenir accordeur. Brandon, sur le départ après 3 ans à l'IMPRO, envisage déjà une petite vie tranquille avec appartement, femme et enfant. Mais Jean-Christophe Bossuet l'admet, le passage de l'IMPRO au monde du travail est difficile. Il faut parfois jusqu'à 7 ans pour les y préparer, mais on y arrive. Par exemple, un jeune a été embauché en espace vert, pas loin de Chilly, et ses employeurs m'ont dit qu'il n'avait rien eu à lui apprendre, car il connaissait déjà tout. Pour éviter une sortie trop brutale, les apprentis adultes sont incités à sortir le plus possible du cadre familier de l'Institut pour faire des courses, des promenades ou encore aller travailler dans des ESAT voisins. Et Jean-Christophe Bossuet poursuit « On essaie d'ouvrir au maximum l'institution sur la cité en créant des collaborations avec le conservatoire, la bibliothèque ou encore la boutique solidaire de la ville. C'est très important parce que ça donne du sens aux exercices qu'on donne aux élèves. Notre objectif final est de les former à la fois à la vie collective et au quotidien et leur dispenser les gestes techniques pour qu'ils puissent intégrer un jour un ESAT. » Un avenir plein de points d'interrogation, mais aussi d'espoir pour les 38 jeunes pensionnaires de l'IMPRO de Chilly-Mazarin. Rubrique « Agir ensemble ». Dons en ligne, c'est le moment d'être généreux. Une partie des dons versés à l'association Valentin Huy peut être déduite de vos impôts. Ce cadre fiscal avantageux encourage votre solidarité en faveur des personnes aveugles ou malvoyantes. Mais attention, pour profiter en 2021 de votre réduction d'impôts, vous devez avoir effectué votre don avant le 31 décembre 2020 minuit. Il n'y a pas de temps à perdre, optez vite pour le don en ligne. Avec le don en ligne, vous choisissez la rapidité, la sécurité et la liberté. Vous n'avez pas eu le temps de faire un don en 2020 ? Vous avez jusqu'au 31 décembre pour le faire en ligne via notre site internet www.avh.asso.fr, rubrique « Faire un don ». Cela ne vous prendra que quelques minutes. Notre plateforme de dons en ligne est 100% sécurisée. Vous pouvez donc saisir vos coordonnées bancaires sans risque et en toute confiance grâce au cryptage SSI de vos données. Une fois la transaction réalisée, vous recevrez un mail de confirmation. Un reçu fiscal vous sera envoyé par courrier postal. Enfin, avec le don en ligne, vous choisissez le montant et le mode de soutien qui vous convient, don ponctuel, don régulier pour vous engager dans la durée, ou don déductible de l'IFI si vous en êtes redevable. Votre don en ligne transforme vos impôts en actions solidaires. En faisant un don en ligne à l'association Valentin Huy avant le 31 décembre 2020 minuit, vous pourrez déduire 66% de son montant de vos impôts sur le revenu, et ce, dans la limite de 20% de votre revenu imposable. Si vous affectez votre don à l'un de nos établissements spécialisés dans l'emploi et la formation, 75% de son montant seront déductibles de votre impôt sur la fortune immobilière, dans la limite de 50 000 euros. Votre don en ligne est bien utilisé. L'association Valentin Huy est membre du comité de la charte du don en confiance qui contrôle régulièrement la bonne utilisation des dons reçus. Ces comptes sont en outre certifiés par des commissaires aux comptes indépendants et sont publiés chaque année. Pour faire un don en ligne, rendez-vous vite sur www.avh.asso.fr, rubrique « Je fais un don ». L'association Valentin Huy est membre fondateur du comité de la charte du don en confiance et agréé par cet organisme de contrôle des associations et des fondations faisant appel à la générosité du public. Question-réponse. J'aimerais connaître l'ensemble des services proposés par l'association. Pour découvrir les différents services proposés par l'association, médiathèque, boutique, pôle accessibilité, pôle social et juridique, imprimerie, vous trouverez toutes les informations sur notre site internet dans la rubrique « L'association » sur la page dédiée « Présentation ». Où puis-je trouver un comité Valentin Huy près de chez moi ? Près de 120 comités départementaux ou locaux sont au service des personnes aveugles ou malvoyantes. Vous trouverez la liste sur notre site internet www.avh.asso.fr. Quelles sont les différentes façons de soutenir les actions de l'association Valentin Huy ? Il existe de nombreuses manières de soutenir l'association, en faisant un don ponctuel ou régulier afin de pérenniser nos actions, en vous engageant sur une mission de bénévolat, en entrant au service de l'association par un mécénat de compétences ou tout simplement en parlant autour de vous. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet dans la rubrique « Agir avec nous ». Pourquoi choisir le don par prélèvement automatique ? Le don régulier est un moyen simple et efficace qui vous permet d'agir avec nous dans la durée. Un reçu fiscal cumulant le montant de vos prélèvements vous sera envoyé une fois par an. Comment devenir bénévole à l'association Valentin Huy ? Notre association est présente partout en France, dans près de 120 implantations locales. Notre responsable du bénévolat, Patrick Voisin, peut vous proposer des missions ponctuelles ou régulières à réaliser dans notre siège parisien, dans un comité régional ou même de chez vous. Pour plus d'informations, écrivez-lui à bénévolat@avh.asso.fr ou contactez-le au 01 44 49 25 92. Contact relation donateur, Marie ou Sandra, 01 44 49 27 05. Relation donateur, @avh.asso.fr, relation au singulier, donateur au pluriel. Legs, donations, assurance vie. Offrez en héritage aux personnes aveugles ou malvoyantes un nouveau regard sur la vie. En transmettant votre patrimoine à l'association Valentin Huy, qui agit depuis plus de 130 ans avec les personnes aveugles ou malvoyantes, vous leur permettez d'avoir un nouveau regard sur la vie. Grâce à vous, elles disposeront demain des outils et services nécessaires pour vivre de façon plus autonome au quotidien. L'association Valentin Huy est reconnue d'utilité publique depuis 1891 et à ce titre, vos legs en notre faveur sont totalement exonérés de droits de succession. Contact Dorothée Gravereau par téléphone au 01 44 49 29 60 ou par mail d.gravereau @avh.asso.fr.